Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour et bienvenue, c'est un dernier entretien de cette série des clés pour vivre, comprendre les mécanismes de l'emprise, du passage à l'acte. Eh bien, on en parle depuis le début de la semaine avec Nicolas Sajus, docteur en psychologie, psychothérapeute et expert auprès de la Cour pénale internationale. Bonjour Nicolas Sajus et merci d'avoir été présent tout au long de ces jours.
Bonjour Nathalie, merci de m'avoir accueilli tout au long de cette semaine.
Alors depuis le début de la semaine, on a essayé de comprendre tous ces mécanismes et de bien saisir le profil du prédateur, de celui qui domine, de cette personnalité narcissique. Aujourd'hui, je vous propose dans ce dernier volet de ne pas oublier aussi toutes ces victimes et de se tourner vers ces victimes. Parce que derrière ces victimes, il y a des vies parfois brisées, des vies cassées, fragilisées. Qu'est-ce que ça laisse quand on a été victime de prédateurs ou d'un prédateur ou d'une secte ou d'une communauté, Nicolas Sajus.
Souvent, le témoignage qui revient quand les gens sortent, c'est le vide lié justement à la complétude qu'a créé le dominant. Et c'est là où il y a besoin d'un énorme soutien parce que le mot qui revient le plus souvent des personnes qui quittent et qui partent, c'est le vide interne. Ce vide où il peut y avoir plusieurs signes, hein, il peut y avoir de la tristesse, de l'anxiété, de l'angoisse, des gens qui sont perdus aussi, suivant, là aussi, ça va être au prorata du nombre de mois, d'années restées avec les personnes, où il faut se re-sociabiliser, ce qui est très très difficile, là aussi, et qui fait que ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement et parfois d'une reconstruction, parce qu'il y a au vu de ce que vivent ces personnes qui ont été là aussi, qui ont vécu des choses très douloureuses, il y a une perte d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et il peut y avoir aussi des tableaux encore plus marqués, qui sont des tableaux psychotraumatiques, avec ce qu'on appelle des flashbacks, des réminiscences, des souvenirs qui peuvent aller très très loin après la sortie aussi. Et là aussi, des déclencheurs de mémoire aussi, qui peuvent être là en regard. Par exemple, hein, de voir une personne qui ressemble en tout cas au dominant, au gourou, qui font qu'il y a ce qu'on appelle des hyperesthésies sensorielles qui se développent, là aussi liées au traumatisme, et qui font ressortir à distance des flashbacks mémoriels, en fait. Voilà, donc il faut vraiment que ces personnes ne restent pas seules, soient accompagnées. Je dis ça parce que souvent, ce qui peut arriver, je l'ai vu dans certains cas, c'est que ces personnes, si elles sont dans une dérive, en tout cas, quand je dis une dérive seule avec elles-mêmes, elles peuvent replonger aussi derrière parce que le vide est trop douloureux à supporter. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout rester seul, être accompagné, voir un médecin, un psychologue, voir les associations, je le redis, mais il existe la MIVILUD, la Mission Interministérielle de Vigilance de Lutte contre les Sectes et des associations. Je pense par exemple au JUMPI, qui sont des associations en lien avec la MIVILUD. Il y en a plusieurs en fait, hein, elles sont répertoriées et qui ont dans tous les départements de France des personnes qui peuvent soutenir ou aider avec des aides psychologiques, des soutiens juridiques et des personnes qui sont là pour écouter.
Donc, on peut se reconstruire
alors bien
avec
sûr,
accompagnement, hein, on est bien
oui.
d'accord.
Oui, je dirais par une démarche de non-isolement et d'accompagnement, mais la reconstruction est tout à fait possible. Elle va prendre du temps et là aussi, je crois qu'il faut prendre ce temps, mais par contre, bien sûr qu'elle est possible. Bien sûr qu'elle est possible. Tout
Alors,
à fait.
c'est une note importante et positive. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Il y a beaucoup d'enjeux dans la société et dans le monde. Le monde n'est pas forcément en bonne santé, Nicolas Sajus. Beaucoup de confusion, beaucoup de mensonges. On est souvent aussi dans les relations où vous parlez de ces prédateurs, de ces personnalités narcissiques. Ils sont nombreux. On est dans des enjeux multiples et des enjeux où on cherche le bien-être à tout prix. On veut guérir de tout. Quels sont les dangers, si on devait terminer peut-être cette série des clés pour vivre avec vous, sans perdre de vue effectivement le mécanisme et être vigilant sur ces prédateurs? On vous
Alors,
écoute.
Tout à fait. Alors, sans parler de prédation, il est évident que dans une société qui a évolué, et là aussi dans la perte de certains rituels, de valeurs, que peuvent avoir encore certaines sociétés, traditionnalistes, et le fait que nous soyons rentrés dans un néolibéralisme avec un capitalisme à tout prix rend la société individualiste. Vous dire ça, c'est que la thématique que nous évoquons est en lien pour moi avec le primat aussi de l'individualisme, où chacun a besoin d'exister aux dépens de l'autre. Et la question, on vit des paradoxes, effectivement, en plus on est dans l'année de la santé mentale qui pourrait interroger, là où on n'a jamais autant parlé dans notre société du bien-être. J'ai écrit un livre qui s'appelle La marchandisation du bonheur. On n'a jamais autant marchandisé sans doute le bonheur. Et c'est là où il faut être prudent et prudente au niveau de tout ce qui est de l'ordre du coaching, du bien-être, du bonheur à tout prix, comme s'il y avait une recette au bonheur. Qui fait qu'aujourd'hui, en réponse à une société qui se cherche, nous vivons de grandes transitions, on n'a jamais autant préconisé cette notion du bien-être. Et c'est sans doute là, parce que des marchands de bonheur, il y en a à tous les coins de rue, et qui utilisent aussi la vulnérabilité humaine, le fait que le travail soit difficile, la conjoncture actuelle est difficile, on vit des temps de guerre, on vit des temps d'insécurité, et c'est savoir aujourd'hui parfois que aller à l'essentiel, c'est pas chercher une recette du bonheur qui n'existera pas, mais c'est savoir aussi comment je me nourris de choses simples, avec des relations par exemple simples, accepter aussi que parfois la souffrance, c'est comment je peux me faire aider, qu'elle est inhérente à la condition humaine, et que là aussi, comment simplement je peux vivre avec des partages simples, des valeurs simples au quotidien, dans une société où par contre il n'est pas simple de vivre. Et c'est là où il faut être vigilant parce qu'effectivement les marchands du bonheur, il y en a beaucoup, beaucoup dans notre société occidentale aujourd'hui.
Et alors, on recherche le bonheur dans ce monde où il y a des guerres, des famines. On est parfois troublé, on est parfois très anxieux, on peut perdre dans la vie ordinaire et quotidienne. Et là, je pense, Nicolas, s'ajuste aux auditeurs qui vous ont suivi et qui vous écoutent peut-être maintenant, qui sont dans des périodes difficiles, avec peut-être des passages à vide, des peut-être forme de tristesse, de profonde dépression. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Alors il y a deux choses, c'est que quand on, là aussi c'est inhérent à tout être humain, quand on vit des choses douloureuses, d'aller sur des enjeux de base que sont le médecin, parfois s'il faut une aide psychologique, mais là aussi aller sur des personnes qui soient référencées en tant que telles et reconnues en tant que telles. Et puis on cherche souvent l'extraordinaire. Je dirais que ce mot, c'est comprendre que, en tout cas dans le décortiquant, que ce qui rend extra, en tout cas notre regard, c'est l'ordinaire. Et que je pense aussi aux jeunes hein, qui vont pas bien du tout en Occident et qui vivent des syndromes anxieux très importants. C'est aussi revenir à des choses simples de l'humain, du partage et de la fraternité. Parce que là où je vous parlais de notre société néolibérale qui développe l'individualisme, le jour où nous reviendrons là aussi, en tout cas à la fraternité, les choses peuvent s'apaiser. Parce que s'il y a bien quelque chose de l'ordre de l'attachement qui fait du bien, ce n'est pas la domination, mais c'est l'amour du prochain.
Vous rappelez surtout dans l'ordinaire de la vie de chaque jour, et l'ordinaire c'est pour chacun d'entre nous, rappel de la fraternité, du partage, rappel aussi du réel, puisqu'on est aussi dans cette époque de l'ère de l'intelligence artificielle, tout va aller très vite, l'homme est en quête de bonheur, donc a soif et cherche, parfois il s'égare, il ne prend pas les bons chemins, et ça vous avez rappelé aussi l'importance d'être vigilant et donc rester vigilant dans les rencontres. On pourrait terminer un mot. Avez-vous vu le film Gourou qui est paru il y a quelques semaines sur les écrans?
Alors, j'en ai entendu parler. Hein. J'ai vu aussi j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été le voir. Alors, il reprend directement ce que j'évoque sur la posture même de ce qu'on a évoqué, notamment sur la question du bien-être. Et les retours que j'en ai eus, pour le coup, décrivent bien les processus, en tout cas, de cette question-là et du besoin et de l'enjeu charismatique que peut développer, en tout cas, un dominant ou un gourou.
Alors tout à fait, je conseille le film, j'ai vu le film, monsieur Nicolas. la Saint-Just. Je vous remercie infiniment de votre présence toute cette semaine dans cette série des clés pour vivre. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute, que vous intervenez en tant qu'expert auprès de la Cour pénale internationale et vous avez parlé d'un livre, La marchandisation du bonheur. C'est bien cet ouvrage ? C'est
tout
bien
à fait,
le titre.
Aux éditions de l'Harmattan, oui.
Très bien. Donc, on retient aussi le titre de votre ouvrage et au plaisir de vous recevoir, peut-être très prochainement, pour de futures émissions. Merci, Nicolas Saint-Just.
Merci beaucoup, Nathalie. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.